Ben, Jean-Claude Dugère, je suis content ce soir de vous écouter parce que moi, je roule tous les jours sur la départementale 931 et je m'embête, mais j'écoute là-bas si j'y suis. Et ce soir, ben, j'ai eu de la musique, j'ai eu un peu de gaieté. On a arrêté de parler de toute la misère du monde. Il est vrai que, comme a dit pas mal d'auditeurs, on est loin d'avoir le cul sorti des ronces, mais ce soir, vraiment, on s'est pris un pied pas possible. Et dans le fond, je regrette presque de ne pas être dans le métro. Enfin, on peut pas tout avoir. Hein. J'ai le soleil, les vaches, la nature, et je m'ennuie. À bientôt et merci beaucoup.
Salut, je m'appelle Karen, j'habite à Saint-Dolay. Et avant, ben, j'étais parisienne. Et c'est rigolo ton émission des chanteurs et des musiciens dans le métro, parce que moi j'étais à la maîtrise de Radio France quand j'avais 16-17 ans, 18 aussi. Et c'était vers les années 91 à peu près. Et je chantais dans le métro avec trois autres copines. On faisait la pastorelle de Schubert. Ben, on gagnait nos sous, mine de rien. Et on a commencé par les grosses rames de métro et on s'est fait jeter forcément. Mais bon, bah on n'était pas accrédités. Hein. Voilà, alors c'était rigolo, ça m'a rappelé plein de bons souvenirs, c'était chouette comme tout. Ça fait du bien parce que la radio c'est pas rigolo en ce moment. Mais je suis tout cœur avec les gens qui souffrent et merci de nous avoir fait souffler un peu. Voilà, et ben à bientôt tout le monde, salut.
Paroisse de Saint-Pierre, procession du dimanche. La procession partira par le derrière de Saint-Pierre. Les hommes prendront le devant de la Vierge et les femmes la queue des hommes. Les jeunes filles s'écarteront pour laisser pénétrer les membres du clergé jusqu'au cœur. Les bonnes sœurs iront s'enfiler avec les moines derrière l'autel. Ceux-ci ne se débanderont que lorsque la cérémonie sera terminée. Les porteurs de bannières devront décharger à chaque reposoir ou station. Le sacristain branlera les cloches à chaque reprise. Pour monsieur le curé, l'abbé Zanchère. Vous n'en croyez pas vos oreilles, hein? C'est le texte d'une affiche reproduite dans le très beau livre « Abba la calotte » qui réjouit mes soirées en ce moment. « Abba la calotte » présente la caricature anticléricale et la séparation des églises et de l'État avec plein d'illustrations en couleur. Et c'est en ce moment en librairie et ça fait plaisir. Alors une fois de plus, « Abba la calotte ».
Oui, bonjour Daniel, c'est Xavier de Toulon. Comme des milliers de Français, j'ai été scandalisé par la façon dont a été traitée cette vieille dame de ma ville. Scandalisé par la rapacité des banques et des promoteurs, l'inhumanité de nos juges et de leurs auxiliaires, l'incurie des services sociaux, le ponce-pilatisme de nos élus dont le premier a été ministre délégué aux personnes âgées, faut-il le rappeler ? La lâcheté des exécutants, qui n'ont sans doute jamais entendu dire que désobéir est un devoir quand l'ordre est injuste, au sens moral bien sûr, mais en ont-ils un ? Nous ne voulons pas de cette France du profit et de la régression sociale que nous construisent jour après jour messieurs Sarkozy, Villepin et consorts sous des prétextes fallacieux. Nous nous souviendrons au moment de mettre notre bulletin dans l'urne. Merci pour votre émission et continuez à dénoncer les injustices.
Oui, bonjour, je viens d'écouter l'émission de ce soir, donc de vendredi, ça a encore révélé un petit peu l'intelligence concernant l'expulsion d'une femme de 80 ans. On en profite pour mettre dans le bateau la police, les pompiers, les huissiers et au passage, allons-y, pourquoi pas, Madame Chirac. Mais personne n'a parlé de l'emprunteur. Il était où aujourd'hui ? Quand on est capable de gérer une entreprise, on la voit aussi bien fructifier que baisser. Donc quand ça baisse, on arrête à temps, intelligemment, pour ne pas mettre les autres dans la merde, surtout sa propre mère. Alors quand le français aura compris qu'il faut arrêter de taper sur les pouvoirs publics quand on n'est pas capable de mettre son pantalon tout seul, ou on achète une ceinture, ou on met des bretelles, mais on vomit pas dans l'assiette qu'on a mangée. Voilà, c'était simplement pour vous souhaiter un bon week-end, et puis je pense que les forces de police pourront bien dormir, les huissiers aussi, mais le fils, lui aussi, doit bien dormir. Il était où à cette heure-ci ? Hein ? Réfléchissez avant de dire des conneries. Merci, et au revoir.
On va essayer, c'est promis. Sauf que ce son de cloche-là est largement minoritaire sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, concernant cette histoire de Toulon, où cette vieille dame de 80 ans a été virée littéralement de son domicile. Ça continue de d'émouvoir beaucoup. Je ne sais pas si c'est dans la grande presse nationale aujourd'hui, mais en tout cas, ça chauffe, ça a beaucoup chauffé sur le répondeur, indignation, révolte, dégoût, etc., etc. Aujourd'hui, c'est pas mal le petit message sur Abba, la calotte. Elle a hésité, l'auditrice, entre culotte et calotte. Elle a fait un mois, un truc entre les deux. Voilà, on va se précipiter évidemment sur ce bouquin. Aujourd'hui, on va revenir sur une page très très méconnue de l'histoire. C'était il y a 40 ans, en Indonésie, un certain Suharto, le général et dictateur, il allait le devenir, Suharto, prenait le pouvoir suite à un coup d'État suivi du massacre de centaines de milliers d'Indonésiens accusés d'être communistes, athées ou tout simplement démocrates. Entre 500 000 et 2 millions de victimes dans des massacres dont la CIA, fut l'instigatrice à l'époque, dans le cadre évidemment de la guerre froide. C'est une page très méconnue évidemment de l'histoire. On connaît peu l'Indonésie en France, et encore moins cet épisode. Et ce sera une occasion de retrouver un grand écrivain indonésien qui s'appelle Pramudia Anantatur, et qui célèbre cette année ses 80 ans, et qui est une figure, vraiment une figure de la résistance, mais de résistance à tout dans sa vie. Il a résisté aux Hollandais qui colonisaient l'Indonésie, ensuite à Sukarno, qui pourtant est resté une figure d'un homme politique tout à fait remarquable. Eh bien, Pramudia s'est opposé à lui, et puis ensuite, il s'est opposé évidemment au régime de Suharto, qui a été le régime anticommuniste, et Pramudia Anantatur a fait partie de ceux qui ont été détenus sur l'île de Buru, qui est le goulag indonésien. Il y est resté 14 ans sur cette île, et c'est ce qu'il va nous raconter aujourd'hui. On l'avait rencontré avec Guy Van Til en 1998, et 7 ans déjà, lors de la chute de Suharto. On vous avait présenté, si vous vous souvenez, une série de reportages sur la chute du dictateur Suharto, et c'est à cette occasion que nous avions rencontré Pramudia, d'autres témoins aussi, d'autres rescapés du goulag indonésien. Et c'est donc à l'occasion de ce 40e anniversaire de ce coup d'État et de ces massacres qu'on a voulu revenir sur cette page vraiment très très méconnue de l'histoire du monde. Auparavant, autre message sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, je m'appelle Jennifer, je suis une lycéenne dans un lycée de Perpignan, et aujourd'hui j'ai envie de pousser un gros coup de gueule. Deux de mes potes se sont fait expulser de France comme des chiens. Donc j'appelle tous les lycéens de Perpignan à venir manifester leur opposition à ces actions dégueulasses. En plus, je dis Sarko vient, alors venez, on a besoin de vous pour lui dire que ces lois sont à chier. C'est vraiment dégueulasse, il a viré un de mes potes hier sans qu'il ait mangé. Sans ses affaires, il est reparti au pays. Et sûrement que le grand-père à Sarko doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous jeudi, place de la Catalogne, à 8h30. Je compte sur vous. Ciao.
It's time to wake up. Thank you. Jam bangun Anda telah tiba. Terima kasih.
We don't need money. We want reformasi.
C'est très beau, hein, c'est vraiment le mois des bras levés. Il y a des ombres chinoises sur la glace, la vitre arrière du bus, et c'est un garçon et une fille. Je sais pas si... Non, les photographes sont tous en train de la louper, cette photo. Il n'y a que nous qui la voyons. C'est absolument sublime, sublime, et personne ne la voit. Je vois aucun appareil photo ni aucune caméra dirigée vers l'arrière de ce bus. Avec ces deux silhouettes en ombre chinoise, alors qu'on est au pays du Wayang, à Java, de ce garçon et de cette fille. Maintenant, c'est un autre bus qui arrive, avec des points qui sortent.
partout, des bras levés, des bandeaux. Il est magnifique. Ils sont remontés. On se battra jusqu'au bout. Ce n'est qu'un début, on peut deviner tout à fait les slogans, c'est pas la peine de parler. Indonésien ce soir, là, on comprend tout, c'est vraiment un moment universel, c'est le moment où les choses changent. Et on s'en fout de ce qui se passera demain. Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Van Til. Là-bas, si j'y suis, mais 98, Jakarta.
Flight number 2, arriving from...
We don't need money, we want reformasi!
C'est une question stupide, mais le moment le plus heureux, c'était lequel? Évidemment, vous allez me dire que c'est le jour de la libération.
Yeah. Pertama yang perlu diketahui, ibu saya itu juga jadi tapol dan sudah bebas duluan. Ketika saya bertemu di Kodim Jakarta Barat, apa yang saya katakan, apa yang ibu katakan, c'est la vie. Dia mengatakan dengan bahasa Perancis, c'est la vie.
C'est la vie.
Ya, dia tidak memeluk, tidak apa-apa, c'est la vie, dan menjabat tangan saya sebagai teman.
Je crois que le moment le plus heureux de toute cette période, c'est lorsque ma mère, qui est également prisonnière politique, mais avait été libérée avant moi, m'a retrouvé au poste de police de Jakarta, après ma libération. Elle m'a serré la main et m'a dit en français, c'est la vie.
Dia tidak layaknya seperti ibu yang ketemu anaknya setelah 14 tahun, memeluk atau bagaimana. Enggak, dia hanya menjabat tangan saja.
Elle ne m'a pas serré dans ses bras comme une mère qui retrouve son enfant après 14 ans. Elle m'a juste serré la main et m'a dit c'est la vie.
Et pourquoi serrer la main seulement?
Saya kira ibu tidak memandang saya sebagai anaknya lagi, tapi sebagai seorang yang sudah dewasa dan sama-sama berjuang mendapatkan nilai yang lebih di hari depan.
Je pense que ma mère ne me considérait plus comme un enfant, mais comme un adulte qui avait participé à la même lutte pour un avenir meilleur.
C'était en mai 1998, la chute de Suharto, effervescence, gaieté, révolution à Jakarta et à travers tout le pays, et une occasion de rencontrer les survivants du goulag indonésien. L'homme qui vient de parler s'appelle Sirgit, et c'est pas son nom, c'est le nom d'emprunt. Parce que à cette époque-là encore, il était impossible, si on était un survivant de ce goulag, de témoigner en son nom propre. Au moins 500 000 morts lors de ces massacres qui ont suivi le coup d'État de 1965, et ensuite une répression inlassable contre des Indonésiens soupçonnés, accusés, sans jugement la plupart du temps, bien évidemment, d'être communiste. Et c'est ainsi qu'un million, environ un million d'Indonésiens ont été déportés sur la sinistre île de Buru. Et Sirgit, qu'on vient d'entendre, raconte comment, à sa libération, au bout de 12 ans ou 14 ans, il a retrouvé sa mère qui lui a simplement dit « Voilà, c'est la vie ». Sa mère étant, évidemment, une résistance. Cet acharnement contre une partie du peuple, on va l'évoquer avec un historien français qui s'appelle Jean-Louis Margolin, qui est historien et chercheur.
1965, effectivement, c'est le point d'origine des années Suharto. Suharto, venu au pouvoir par un coup d'état militaire, chassé du pouvoir par une sorte de révolution de palais qui prend aussi certains aspects militaires. Et il faut bien voir quand même que ce chef d'État, qui a surtout été accusé récemment, et à juste titre, bien sûr, de népotisme, de corruption, d'incapacité, etc., etc., c'est quelqu'un qui est venu au pouvoir en se fondant sur un véritable bain de sang, sur l'un des plus grands massacres que l'Asie a connu à ce siècle, et pourtant elle en a connu pas mal. Il faut voir que depuis la mort de Pol Pot, on peut dire que Suharto est quand même, n'ayons pas peur des mots, le plus grand criminel politique asiatique vivant. Et donc il importe bien sûr pour nous, mais d'abord et avant tout pour les Indonésiens, qui ont été quand même très largement terrorisés par ce régime qui n'a reculé devant aucun moyen pour les faire taire, quand il en a ressenti le besoin. Il s'agit maintenant donc pour les Indonésiens, et très secondairement pour nous, de prendre conscience de cette réalité qui a été mise complètement sous le boisseau, qui a été pratiquement complètement passée sous silence, peut-être tout simplement parce que pour nous l'Indonésie c'est loin, et parce que aussi 1965 c'est la période de l'apogée de la guerre du Vietnam, et donc l'attention était focalisée sur ce pays pas très éloigné de l'Indonésie, et donc on n'a pas voulu voir ces horreurs, les horreurs qui se passaient donc à quelques centaines de kilomètres seulement du sud Vietnam.
Et puis l'une des raisons sans doute de cette amnésie, de cette chape de plomb, c'est que le Parti communiste français à l'époque était du côté soviétique, alors que le Parti communiste indonésien penchait du côté chinois. En 65, c'est Sukarno qui est au pouvoir, le père de l'indépendance. Et l'Indonésie traverse une crise économique importante. Il y a trois forces politiques qui se partagent, si on veut, l'Indonésie. Il y a les partis islamiques qui représentent 40%. Et c'est une force évidemment importante. Il y a le Parti communiste indonésien qui représente à peu près 20% de l'électorat. Et puis il y a l'armée qui est un pôle qu'on voit toujours très présent, qui est très très important dans la vie indonésienne aujourd'hui, dans la politique indonésienne aujourd'hui, et qui à l'époque peut être vu comme un élément de stabilité de ce jeune pays qui est indépendant depuis 45-49, la lutte d'indépendance pour l'indépendance. Mais il faut sans doute décrire un peu mieux la situation dans le cadre régional de l'Asie du Sud-Est, et puis international aussi, puisqu'à l'époque c'est la guerre froide, il y a cette fracture que j'évoquais entre l'URSS et la Chine, et puis il y a évidemment les États-Unis qui sont en train de s'embourber au Vietnam, et qui évidemment vont jouer un rôle très important dans ce coup d'État de 65.
Il y a un contexte intérieur, et le contexte intérieur c'est évidemment important dans un pays qui a déjà plus de 100 millions d'habitants à l'époque, et de loin le plus grand pays d'Asie du Sud-Est.
100 millions à l'époque.
Déjà plus de 100 millions.
De 200 millions aujourd'hui.
200 millions aujourd'hui, ça.
C'est
ça,
fou.
Ça,
hein,
ça
c'est
pratiquement doublé. Pratiquement doublé. C'est un pays qui a quand même conquis son indépendance partiellement par les armes, qui est jaloux de son indépendance, avec une population qui est très réticente, à la fois du fait du poids du nationalisme, du fait du poids du communisme, du fait du poids de l'islam, à un alignement excessif sur l'Occident. Mais évidemment, le pays un petit peu tiré à Huadia par les forces terribles qui s'affrontent à l'époque en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire d'un côté les forces communistes très à l'offensive, très dynamique à ce moment-là, avec évidemment les guérillas communistes au Vietnam, mais des guérillas communistes dans d'autres pays de la région, et puis le grand arrière chinois juste derrière, et puis d'un autre côté, évidemment, la puissance militaire américaine, particulièrement agressive, implantée directement au Sud-Vietnam, implantée en Thaïlande, implantée par l'intermédiaire de la 7e flotte, quelques encablures des côtes indonésiennes. Bon, personne ne peut, évidemment, ne pas s'abstenir de tenir compte de ce contexte. Et incontestablement, pour les États-Unis, l'Indonésie, qui contrôle les détroits entre l'océan Indien et l'océan Pacifique, l'Indonésie, pays d'Asie du Sud-Est le plus riche de très loin en matières premières, tant minérales que végétales, C'est un enjeu politique, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu stratégique tout à fait considérable. On ne peut pas se permettre de laisser l'Indonésie basculer dans le communisme, ce qui serait pour les États-Unis une catastrophe sur le fond bien pire que la chute du petit Sud-Vietnam. Bon. Peu riche, peu stratégique. Et donc, incontestablement, les États-Unis vont faire ce qu'ils peuvent pour renverser le rapport de force, pour chasser l'influence chinoise d'Indonésie. Et la meilleure façon de chasser l'influence chinoise d'Indonésie, c'est d'éliminer ceux qui les représentent sur place, c'est-à-dire le Parti communiste indonésien, et puis le président Sukarno, qui a fait, selon eux, beaucoup trop de concessions, à la fois au Parti communiste local et internationalement, à la Chine et également à l'URSS. Donc, que les États-Unis aient voulu renverser le régime Sukarno, qu'ils aient ensuite été très satisfaits du coup d'État, très satisfaits du massacre des communistes, et qu'ils aient massivement appuyé, en particulier économiquement, ce régime, pour le légitimer en quelque sorte par un début de réussite, un début de relèvement économique auprès de sa population, c'est une évidence. Très vite, en fait, sans pour autant que le Parti communiste ait été impliqué à l'évidence dans ce coup d'État, mais c'est vrai qu'il ne l'a pas désavoué, c'est vrai que ceux qui l'ont fait étaient assez proches de lui, eh bien les communistes vont être déclarés responsables de ce coup d'État, et comme les communistes ont tué 6 de nos généraux, eh bien on va se venger en massacrant à peu près en gros 100 000 communistes par général. C'est comme ça que ça va se passer, donc...
100 000, ça ferait 600 000.
Pratiquement. Bon, vous savez, on cite 500 000, c'est pour... c'est affreux à dire, mais c'est pour donner un chiffre rond. Personne ne sait, en fait, si c'est 400 000, 600 000, 800 000. Certaines personnes sérieuses ont été jusqu'à 1 million. Et en fait, personne n'en sait rien. Ça a été fondamentalement une sorte de pogrom. Ça n'a pas été une bureaucratie de la mort comme en Allemagne nazie ou comme dans l'URSS stalinienne. Ça a été fondamentalement, je dirais, un lâcher d'égorgeurs, soutenu, encadré, entraîné, protégé par l'armée, qui passent de maison en maison, et ceux qui sont connus comme étant des militants ou des sympathisants communistes, ceux qui ne peuvent pas se justifier, et puis évidemment on en profite pour régler des comptes personnels, bah ceux-là, on les égorge, on les assomme, on les jette à la rivière, il y a des rivières de Java ou de Bali qui sont rouges de sang, et puis on règle en quelque sorte tous les comptes, et puis on s'en prend aux mécréants, on s'en prend à celui du village qui ne va pas à la mosquée ou qui ne va pas au temple hindou suffisamment régulièrement, on s'en prend aux paysans ou aux ouvriers qui sont syndiqués, qui ont occupé leurs usines, qui ont occupé le champ d'un grand propriétaire, et en quelques mois, en fait, on a une sorte de traînée rouge qui s'étend à l'ensemble de l'archipel indonésien, plus dramatique dans certaines zones, de façon plus atténuée dans d'autres. Dans certaines zones, on se contente pour l'essentiel de mettre les militants communistes en prison, et certains vont, à 1 million environ, vont être déportés.
1 million.
Mission infâme pendant certains 5 ans, d'autres 10 ans, d'autres 15 ans, et certains, quelques-uns le sont encore aujourd'hui. Mais enfin, ce phénomène massif du massacre, cette espèce d'immense pogrom donc de membres des jeunesses des partis musulmans, principalement, secondairement, il faut le dire également, des partis chrétiens, catholiques ou protestants, qui sont pas inactifs. Ces jeunes qui sont plutôt des membres, de la jeunesse dorée, de la jeunesse intellectuelle, largement des étudiants, et bien chaque nuit partent en expédition, et puis les victimes ne résistent pratiquement pas. Parce qu'ils
c'est ça qui est frappant. Les gens se laissent faire, on dirait une sorte de complaisance des victimes.
C'est quelque chose qui est assez... encore aujourd'hui difficile, qui est extrêmement impressionnant et qui est encore aujourd'hui assez difficile à expliquer, c'est vrai.
Coup d'État en 1965, massacre et ensuite une longue répression pendant quasiment 33 ans jusqu'à la chute de Suharto, l'anticommunisme, la chasse à tout ce qui peut s'opposer par extension au régime sera impitoyablement réprimé, combattu par la dictature de Suharto. Mais les décrets qui permettaient cette répression aujourd'hui L'Indonésie, en principe, est revenue à la démocratie depuis 1998. Eh bien, ces décrets ne sont toujours pas abolis. Les droits politiques de millions de personnes qui ont été réprimées n'ont pas été rétablis. Et il reste quelque chose dans ce pays aujourd'hui de ces époques de répression. Par exemple, écrire l'expression classe ouvrière aujourd'hui en Indonésie dans un journal est passible de 12 années de prison pour incitation à la propagande communiste. C'est dire s'il y a du travail à faire. Celui qui a fait son travail dans sa vie et qui continue, c'est Pramudya Amantatar. Pramudya Amantatar, on l'avait rencontré. On va l'appeler Pram, ça sera plus facile, c'est comme ça que tout le monde l'appelle, pas seulement dans son pays, c'est un écrivain connu dans le monde entier. Il dit, j'ai tout sacrifié à l'Indonésie, ma santé, ma jeunesse, et même aujourd'hui ma vieillesse, puisque là, cette année de 2005, il a 80 ans, et la prison a été longtemps sa résidence principale, et il a toujours refusé de s'exiler. Il est né donc en 1925, famille d'instituteurs. Très jeune, il est rédacteur journaliste dans un journal qui s'appelle The Voice of Free Indonesia, et il publie son premier bouquin à 21 ans. Mais ses positions nationalistes, c'est l'époque où les Hollandais sont encore en Indonésie, lui valent d'être emprisonné par les Hollandais et de faire 2 années de prison pour nationalisme, indépendantisme. 1949, c'est l'indépendance de l'Indonésie. Et là, Pramudya aura un moment assez heureux. Ses livres sont lus dans les écoles. Il devient traducteur. Par exemple, il traduit Steinbeck en indonésien, etc. Et puis, ça va se gâter, donc, en 1965, où il sera arrêté, déporté sur l'île de Buru, le goulag indonésien, où il deviendra, avec ses compagnons d'infortune, une figure, la figure, une sorte de Solzhenitsyn, c'est un peu raccourci, mais enfin c'est un peu ça, c'est la figure de la dissidence indonésienne, c'est cet homme que nous rencontrons aujourd'hui à nouveau.
L'homme qui est devant nous, qui est assis, qui sourit, très superbe bonhomme, a composé le premier d'une série de ses romans. Il a écrit depuis 1945-1946, mais il y a une série de ses romans, un quatuor de romans, qu'il a écrit durant sa détention à Buru. Mais il l'a pas écrit, il l'a composé oralement. Ça s'appelle The Earth of Mankind. Et ce roman-là a été composé oralement. Il n'avait pas de papier, c'était interdit. Il n'avait pas de crayon, ça lui était interdit. Alors le soir, il racontait ce roman à ses compagnons de détention. C'est dans cette petite maison qu'il habite sous surveillance. Et il a récemment, il y a 2-3 ans, obtenu un prix de l'UNESCO. Ça peut paraître, un prix d'une exco, qu'est-ce que c'est? Eh bien, lui, aujourd'hui, ça le protège, ça fait que la pression sur lui, c'est un peu allégé, disons. Et il reçoit autant qu'il peut des visiteurs étrangers. Vous êtes né en 1925, vous avez commencé à écrire en 1946, et là, c'était avant l'indépendance, c'était au temps des Hollandais. Est-ce que vous pouvez évoquer un peu ce temps des Hollandais, au temps de la colonie?
Yang mendidik anak-anaknya itu benci pada penjajahan, bahkan juga benci pada Belanda.
Mon père apprenait à ses élèves à détester le colonialisme et notamment les Hollandais.
Oui, parce que c'était eux qui étaient les colons. voilà, dité, c'est très gentil. Bonjour, madame. Bonjour. Les Hollandais étaient très durs.
Oh, sebetulnya kalau dibandingkan dengan Orde Baru itu sangat lunak.
Si on les compare avec ceux de l'ordre nouveau, non, ils sont vraiment.
L'ordre nouveau, c'est le pouvoir qui est toujours en place ici, en Indonésie. Donc les Hollandais étaient moins durs que l'ordre qui règne actuellement. Est-ce que ça veut dire que vous considérez que l'ordre nouveau est un système qui colonise l'Indonésie ?
Plus que ça.
C'est plus que ça.
Barbares.
Voilà. Ce sont des barbares.
Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre des risques en parlant comme vous le faites ?
Oh, kalau mereka mau bertindak terhadap saya, silakan.
Oh, s'ils veulent m'inquiéter, ils peuvent le faire. Hein.
Setelah saya mendapat award dari UNESCO, saya tidak diganggu lagi.
Depuis que j'ai eu le prix de l'UNESCO, je ne suis plus inquiété.
Il n'ose plus vous toucher.
Bukan tidak berani, tidak mengganggu lagi.
Il ne me dérange plus.
Juga tidak ada fitnah lagi di pers.
Et il ne me maltraite plus dans la presse non plus.
Pram Pramodia Anantatur a écrit 30 livres. Il est traducteur de Steinbeck, de Tolstoï, de Gorky en indonésien. Au mur, un dessin d'un auteur allemand. Et il faut savoir aussi que ces livres sont traduits en 16. L'auteur, j'ai bien trouvé de mémoire, c'est Günter Grass qui a adressé un dessin des textes aussi de Tar Ben Jelloun, qui est un des rares à le connaître et à le défendre dans la littérature française, enfin parmi les intellectuels français, traduit en 16 langues, donc Pram, et aujourd'hui toujours ces livres en Indonésie circulent sous le manteau, sont photocopiés, religieusement photocopiés, je ne sais pas si le mot religieux lui plairait beaucoup, et sont distribués, dit-on, sous forme de photocopie à 500 000 exemplaires. Il y a partout des hommes qui restent éveillés. Est-ce que vous pouvez évoquer 1965 ? Il y a eu un coup d'État et des hommes, parce qu'ils étaient communistes, ont été massacrés.
Saya seorang redaktur dari sebuah koran yang memimpin lembaran budaya. Korannya namanya Bintang Timur, pendukung Soekarno.
Donc à ce moment-là, j'étais rédacteur et je m'occupais de la page de la culture. Et c'était un journal qui soutenait Soekarno.
Soekarno melahirkan nation Indonesia.
Soekarno a donné naissance à la nation indonésienne.
C'est ça.
Tapi Soeharto mendirikan Orde Baru ini.
Soeharto a fondé l'ordre nouveau.
Dengan membunuh bangsanya sendiri sebanyak 2 juta orang.
En massacrant 2 millions de ses concitoyens.
Vous considérez, attendez, c'est grave ce que vous dites là, parce que vous êtes un homme important, non seulement dans votre pays, mais dans le monde. Et vous considérez, vous, que Soeharto a fait massacrer 2 millions d'Indonésiens.
Tanpa pernah mengadili pembunuhnya, satu orang pun sampai sekarang tidak ada yang diadili.
Et ceux qui ont commis les meurtres n'ont jamais été jugés.
En 65 et 66.
Termasuk pembunuhan di Tim-Tim.
Et ça, non compris les meurtres qui ont eu lieu à Timor-Est.
Mais dans les 2 millions de personnes que Soeharto a fait assassiner, est-ce qu'il s'agissait de tuer des communistes ou non ?
Iya, alasannya.
Oui, la raison était qu'ils étaient accusés de communisme.
Mais est-ce qu'ils l'étaient vraiment ?
Untuk menjadi komunis, orang harus tahu filsafat.
pour être communiste, il faut avoir beaucoup lu, il faut connaître la philosophie.
Donc il ne l'était pas. Selon vous, les hommes qui ont été massacrés, pour la plupart, n'étaient pas communistes.
Orang biasa saja.
Oui, c'était des gens tout à fait communs.
Comment se déroulaient les massacres ?
Kebanyakan tidak ditembak, tapi dengan senjata tajam. Bahkan di Jawa Timur itu sebelum dibunuh, yang membunuh itu juga orang-orang biasa yang diberanikan untuk membunuh. Sebelum-belum malah pada menari-nari dulu sebelum membunuh mereka.
La plupart qui ont été assassinés l'ont été avec des armes blanches. Et dans la province de Java Est aussi, les meurtriers, qui étaient des gens très simples, hein, mais qui avaient été poussés à tuer, allaient jusqu'à danser avant de commettre leur meurtre.
Tidak, bukan soal etnik.
C'est pas un problème d'ethnie. C'est un problème politique.
C'est supaya berdiri orde baru secara cepat.
Pour fonder le plus vite possible l'ordre nouveau, il fallait effrayer les gens, les intimider.
Et les écraser.
Orang dibikin takut.
Oui, on leur faisait peur.
Tapi semua ini adalah bagian dari perang dingin.
Mais ça, c'est un épisode de la guerre froide.
Perang dingin itu sampai sekarang tidak pernah disebut oleh Orde Baru.
La guerre froide n'a jamais été citée jusqu'à présent par l'ordre nouveau.
L'ordre nouveau, c'est-à-dire qui règne toujours sur l'Indonésie, ne cite pas la guerre froide. Et pourtant, on sait aujourd'hui très clairement, c'est plus un doute, que la CIA a organisé ce coup d'État, a été caution de ces massacres qui se sont déroulés à travers l'Indonésie, massacres de pauvres contre des pauvres, et qui évidemment ont laissé des traces très profondes, des douleurs très très profondes, malgré, ou peut-être à cause d'eux, ce couvercle et cette poigne de fer qui étreint cette Indonésie toujours aujourd'hui.
Buru, c'est une île sur laquelle vous avez séjourné. C'était une île pénitentiaire et beaucoup de gens comme vous ont séjourné dans cette île.
Yes, sekitar 14.000.
Oui, à peu près 14.000.
Vous étiez 14.000 à Buru.
Saya rombongan pertama yang masuk sana.
Moi, je suis le premier groupe qui est parti de là-bas.
Vous êtes resté combien de temps alors à Buru?
10 ans.
10 ans.
Kerja paksa.
Les travaux forcés.
Ah. Dan makan harus cari sendiri.
Et si on voulait manger, il fallait chercher soi-même.
Buru itu sekitar 1,5 kali besarnya Pulau Bali.
Buru, c'est une île qui fait 1,5 fois l'île de Bali.
C'est très grand.
Dan sepertiga pulau itu jadi konsentrasi kamp.
Et le tiers de cette île a été transformé en centre de concentration.
Comment on fait pour tenir, pour résister?
Ya, kita harus survive.
Oui, il faut survivre coûte que coûte.
Jadi sekitar 50% mati.
Donc environ 50% des prisonniers mouraient en prison.
Qu'est-ce que vous faisiez dans une journée de ces 10 ans?
Ya, buka hutan, membuat sawah, membuat jalanan.
Oui, des travaux forcés. On défrichait les forêts, on faisait des routes.
Pernah juga jadi penempa besi untuk membuat alat-alat pertanian.
Oui, j'ai aussi fait forgeron, donc pour faire les outils agricoles.
Est-ce que vous pouviez lire? Est-ce que vous pouviez écrire?
Saya mencoba menulis, tapi semua dirampas.
J'ai essayé d'écrire, mais on m'a tout confisqué.
Ada seorang teman kedapatan membaca sobekan koran bekas bungkus, entah apa itu, alat apa itu, pintu ini yang
J'ai un ami qui a pu obtenir un petit bout de journal qu'on utilisait pour envelopper les instruments, et donc il a été surpris en train de lire ce petit bout de journal, et deux jours après on l'a retrouvé, il flottait avec les mains liées dans le dos.
Ah.
En 1990, trois étudiants de Djodja, la capitale, disons, intellectuelle de Java, ont été condamnés à 7 ans de prison pour avoir distribué un des ouvrages de Pramodia Anantatur. En fait, selon ces traducteurs français, Henri Chamberloire et Denis Lombard, Pram n'avait pas plus de sympathie pour le PKI, c'est-à-dire le Parti communiste indonésien, que pour les nationalistes ou pour les musulmans. Il était un homme, un humaniste, disons, quelles que soient les convictions successives qui ont pu être les siennes.
Si vous deviez garder un seul livre, lequel vous
Untuk saya dalam hidup saya tidak ada andai-andaian itu.
Chez moi il n'y a pas de si.
Il y a la réalité.
Kenyataan saja.
C'est la réalité.
Quel a été le plus beau jour de votre vie?
Sulit untuk menjawab. Sejak kecil saya belum pernah merasa senang.
Ce serait difficile de répondre. Depuis que je suis tout petit, je n'ai jamais ressenti une journée où j'étais heureux.
Tidak sempat belajar di sekolahan.
J'ai pas eu l'occasion d'étudier à l'école.
Kerja terus.
Je travaillais tout le temps.
Sampai sekarang.
Jusqu'à aujourd'hui.
Fitnah, dianiaya.
J'étais insulté, j'étais trahi. J'ai toujours connu des choses qui
difficiles.
Pemerintah melarang buku-buku saya, itu merampas penghidupan saya.
Le gouvernement a interdit mes livres. Ouais. Ils m'ont pris ma vie.
Sehingga di Indonesia saya tidak bisa dapat uang.
En Indonésie, je peux pas avoir de l'argent. Pour vivre, je peux pas avoir d'argent en Indonésie.
Est-ce que vous croyez que l'homme fait des progrès?
Ya melihat konvensi-konvensi maju.
Oui, en voyant toutes les conventions, oui, il y a une évolution.
Il y a des progrès quand même pour vous.
Ada. Oui, il y a des progrès.
Kecuali di Indonesia ya.
Sauf en Indonésie.
Makin besar omongannya, makin kecil tanggung jawabnya.
Plus les discours sont grands et plus petite est la responsabilité.
Ouais, plus le discours est long, plus la responsabilité est petite. Vous êtes un dissident. Au fond, vous êtes un homme dissident.
Yang sebetulnya siapa yang melawan itu? Mereka melawan saya, apa saya melawan mereka?
Oui, c'est eux qui s'opposent à moi ou c'est moi qui s'oppose à eux?
Alors, c'est eux qui s'opposent à vous ou vous qui vous opposez à eux?
Mereka. Ce sont eux.
Ce sont eux, c'est ça.
Mm-hmm. Vous. Ordre baru ini.
Voilà.
C'est ça, l'ordre nouveau.
C'est ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un marginal, c'est eux les marginaux. Vous n'êtes pas un dissident, vous n'acceptez pas le titre qu'ils vous donnent.
Dan cara ini dijalankan terus sampai sekarang.
Et cette façon de faire, ça continue toujours.
Jadi barang siapa jadi korbannya Orde baru, dia akan didakwa.
Quelle que soit la victime de l'ordre nouveau, elle sera toujours accusée.
Sampai ouais. Sekarang.
Et ça, c'est toujours maintenant.
Ah, c'était en 1998, cette rencontre avec Pramelia Anantatur, qui cette année fête ses 80 ans en 2005, en même temps que ces jours-ci, on commémore les massacres de 1965 dans cette Indonésie, 500 000 victimes, pense-t-on, puis des années et des années de répression contre tout ce qui pouvait s'opposer au pouvoir de Suharto. Pramudia Anantatur a passé 20 ans, alors 15 ans, il vient nous le dire, 14 ou 15 ans en goulag, 2 ans de prison au temps des Hollandais, 14 ans de goulag, et ensuite il a été pendant 20 années assigné à résidence lorsque nous l'avons rencontré dans cette maison en 1998, quelques jours avant la chute de Suharto, il était encore en résidence. Un autre témoin, celui qu'on a entendu tout à l'heure au début de cette émission, Sigit, celui qu'on a appelé Sigit, qu'on va retrouver, qui lui aussi était détenu sur cette île terrible de Buru, en Indonésie, qui nous a raconté, on a mangé tous les animaux sauf les tables, dit-il. Il nous a raconté aussi comment donc il a retrouvé sa mère à sa libération, qui lui a dit simplement, stoïquement, c'est la vie. Bon, vous avez retrouvé votre mère, qui vous a dit c'est la vie. Et après, est-ce que le monde avait changé? Comment vous êtes remis d'aplomb avec le monde?
Surprise, tentu saja, dengan lalu lintas jalan. Paling tidak selama satu bulan, saya naik bus umum selalu muntah dan saya paksa untuk tetap naik bus. Karena dulu tidak pernah naik kendaraan. Saya tidak bisa menyeberang karena tidak bisa mengkalkulasi kecepatan mobil. Pokoknya. Saya harus banyak belajar.
Ce qui m'a le plus surpris, c'était la circulation. Je me suis forcé à prendre le bus parce que je vomissais, j'étais malade à chaque fois, je n'avais pas l'habitude. Avant, je n'avais jamais pris de transport en commun. Et j'hésitais même à traverser une route parce que j'avais du mal à évaluer la vitesse à laquelle les véhicules venaient sur moi.
Dasarnya ini sebenarnya saya pikir adalah buat kami di Pulau Buru, perempuan itu kalau tidak penduduk di luar pagar, sebagian memang pernah bergaul, tapi umumnya di luar pagar, dan kalau ada ibu-ibu yang dekat kita adalah ibu-ibu pejabat militer atau pejabat dari Jakarta yang melihat dengan penuh pengertian kebun binatang yang isinya tapol.
Je ne savais surtout plus comment me comporter avec une femme parce que pendant les nombreuses années que j'ai passées à Pulau Buru, les seules femmes que nous rencontrions étaient des épouses de militaires ou des fonctionnaires qui venaient visiter Buru, qui nous regardaient avec beaucoup de compassion, comme on peut regarder des animaux dans un jardin zoologique.
C'est-à-dire que vous êtes parti à 21 ans, vous avez été arrêté à 21 ans, vous êtes revenu à 36 ans, vous étiez un homme jeune encore.
Mungkin karena saya makan semua binatang yang berkaki empat, kecuali meja.
C'est peut-être, je suis resté jeune, peut-être parce que j'étais capable de manger toutes sortes d'animaux à quatre pattes, sauf les tables.
Dengan cap ekstrapol itu, khususnya di Jakarta, tidak terlalu keras restriksinya. Tapi di daerah-daerah keras sekali, mereka harus lapor setiap bulan. Saya akan teruskan.
Ça ne s'est pas arrêté, tout ne s'est pas arrêté avec ma libération. Je suis toujours marqué comme ex-tapol, ancien prisonnier politique. Mais justement à Jakarta, ces conditions ne sont pas trop dures si on les compare avec les conditions dans les campagnes où justement les ex-tapol doivent toujours venir pointer dans les commissariats mensuellement.
Aujourd'hui, toujours en Indonésie, les prisonniers politiques, les ex-prisonniers politiques sont en liberté surveillée.
Di beberapa tempat, misalnya di Semarang itu sekitar 3 bulan sekali, tapi saya mendengar dan belum mencek. Di Yogyakarta katanya 1 bulan sekali. Tetapi apapun juga mau saya teruskan, kami tidak boleh pergi ke luar negeri. Anak saya tidak boleh kerja di pabrik-pabrik vital, misalnya minyak dan lain sebagainya. Dan anak saya tidak boleh jadi pegawai negeri, apalagi militer. Dan itu memang saya setuju sekali kalau tidak kerja di militer.
Oui, ça dépend beaucoup d'une région à l'autre. J'ai entendu dire qu'à Semarang, il fallait encore aller pointer tous les trois mois. À Yogyakarta, je crois qu'il faut y aller tous les mois. Ensuite, ce n'est pas tout. Par exemple, moi-même, je n'ai pas le droit de travailler dans certaines institutions considérées comme vitales pour le pays. Non seulement moi, mais également mes enfants. Mes enfants n'ont pas le droit de travailler dans des compagnies considérées comme vitales pour l'intérêt du pays, comme des compagnies pétrolières, encore moins devenir fonctionnaire, et surtout pas entrer à l'armée. Mais alors là, je suis entièrement d'accord, je ne tiens absolument pas à ce que mes enfants entrent à l'armée.
Dulu, ketika dia berumur 5 tahun, saya setiap 2 malam sekali cerita tentang pengalaman saya di penjara. Kemudian setelah bahan-bahan habis, sekarang ini saya cerita tentang bagaimana hebatnya rezim Soeharto. Dan dia sadar betul menempatkan dia di mana.
À partir de l'âge de 5 ans, un soir sur deux, j'ai raconté à mon fils ce qui m'est arrivé. Et lorsque je n'ai plus rien eu à raconter, il avait à peu près 10 ans, j'ai commencé à lui parler
du régime de Suharto. Et maintenant, il sait très bien quoi en penser et quelle voie choisir pour la nuit.
Sebab saya pikir kalau tidak dari semenjak remaja dia diberi tentang sejarah yang benar, apa yang terjadi di Indonesia, dia akan terkooptasi dengan yang nasibnya sama dengan adik-adik seumur dia yang semuanya serba question mark.
Oui, parce que je pense que si il n'apprend pas dans sa jeunesse, dans son adolescence, il n'apprend pas tout ce qui s'est réellement passé en Indonésie, il va se retrouver comme tant d'autres de jeunes maintenant, avec uniquement des points d'interrogation.
Une page méconnue de l'histoire, les massacres de 1965. En Indonésie, la répression contre les démocrates, les militants communistes et les athées aussi. Les athées faisaient partie des cibles du régime de Suharto. Et aujourd'hui, les choses se sont un petit peu adoucies, mais on est loin d'un équilibre démocratique. Merci à Sigit, merci à Promedia Anantator, merci aussi à Jean-Louis Margolin, l'historien. Le traducteur, c'était Patrice Levang, de Promedia Anantator, Gadis Pantai. La fille du rivage est éditée chez Gallimard. Il y a beaucoup d'autres livres aussi en français, traduits en français. Un autre livre dont on a parlé ces jours derniers, de Jacques Semelin, Purifier et détruire, usage politique des massacres et génocides, c'est aux éditions du Seuil. Et puis pour les repères de la base J'y suis, des amis de la base J'y suis, toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France, www.radiofrance.fr, chaîne France Inter à la rubrique émission La Basse J'y suis, technique Sophie Moreno et Patrick Henry, réalisation Yann Chouquet et Raphaël Moutarde, assistante Pascal Pascariello, le répondeur c'est le 01 56 40 37 37, c'est Christophe Humbert qui s'en occupe, le mail c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Il est 17h58 passé, ainsi s'achève cette émission modeste et géniale avant la pub.